bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. C'est la bande originale, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadhafi, Daniel Morin, Albert Algou.
Bonjour.
Alexis Le Rossignol, Frédéric Siriste et nos invités Anne Charlier, François-Vincent Tellier. Pour une pièce, bonjour et bienvenue, pour une pièce qui s'appelle Le Canard à l'Orange, ce célèbre canard à l'orange que vous reprenez au théâtre de la Michaudière avec Nicolas Briand, le Briand, Nicolas Briançon, Alice Dufour, Sophie Arthur et vous deux, Anne et François. C'est jouissif, c'est extrêmement drôle, même si ça part toujours d'une situation qui peut être dramatique, notamment pour un couple. On va en parler dans quelques instants. Mais c'est la reconquête, en fait, d'un mari pour sa femme qu'il est en train de perdre. Est-ce que cette espèce de résumé vous conviendrait, Anne, ou pas ?
Mais absolument, je le valide totalement.
Okay. Très bien.
Je suis très contente. Je bloque toutes les paroles.
Alors, jouons pour savoir si vous connaissez la vie en particulier d'Anne Charrier ou de François-Vincent Tellier. Vous êtes avec nous, François ?
Oui, ah bah oui.
Ah, très bien.
Et comment ?
Très bien. Anne Charrier, mais vous ne dites rien pour l'instant, François et Anne. Anne Charrier en a une belle collection, mais de quoi ?
Chaussures ?
Oui. Ah, joli. Mais alors, quel est le qualificatif de belle collection, Anne ?
Parce que... Alors, non, en fait, elle
c'est
plus si belle que ça, parce que j'ai fait un énorme tri.
J'ai fait un vide grenier.
Ah. Ouais. Et j'ai vendu à Nagui ?
Oui, c'est ça. C'est la même
j'ai
pointure.
Pris tous, et les styles, même tous les stilettos. Ouais,
12 cm surtout. Ouais.
Oui, absolument. Belle, non, elle n'est pas par rapport à plein de gens, mais j'en ai quelques-unes.
Non, mais vous n'assumez pas d'en avoir beaucoup.
J'en ai beaucoup, ouais.
Mais beaucoup, ça commence à combien ?
Ah, bah, c'est-à-dire qu'au-delà de ce qu'on peut porter, c'est beaucoup. Quand vous avez des paires de chaussures que vous n'avez jamais portées, c'est beaucoup trop
pieds,
déjà.
Ok, donc t'as plusieurs pieds, t'en as au moins plus de deux.
Mais on est en quoi ? Ça se compte en dizaines, cinquantaines, centaines ?
Ouais, je pense qu'on est sur quelques dizaines.
Non.
Ouais, ça fait une centaine.
Donc vous n'assumez pas la centaine, en fait.
Non, il n'y en a pas 100, ça c'est sûr.
Il n'y en a pas 100. Et alors, pourquoi vous en êtes débarrassé si vous êtes amoureuse des chaussures ?
Marie Kondo.
Bah parce qu'à un moment... Non, parce que c'est ridicule. Et puis parce que je suis pour le... Maintenant, je prône le zéro déchet. Ouais. Alors j'en suis très, très loin.
Mais chaussures, ça y est, ça fait pas de déchets, les chaussures.
Non.
Bah c'est toujours acheter des chaussures.
Ouais.
C'est,
ah non
voilà.
Celles que vous aviez, vous auriez pu les garder. Vous avez pu décider de ne plus en acheter, de garder celles que vous aviez.
Oui, ça, j'ai pas réussi encore.
Ok, donc
mais j'en ai donné plein.
Pour en acheter d'autres.
À Céline Dion.
Pour faire rentrer certaines...
C'est une collection de chaussures.
Céline Dion, il paraît.
Ah ouais.
La Marcos aussi,
ouais, Marcos.
La femme du dictateur.
Ah ouais, des Philippines. Ouais.
Concernant François-Vincent Tellier, après la diffusion de la série Hard sur Canal, que lui a dit un jour une femme sur la plage ?
Est-ce qu'il voulait bien être Roy Lapoutre le temps d'une soirée ?
Non.
Belle pièce.
Non, belle pièce de théâtre, tu veux dire. Non.
Après, alors attends, c'est après la
vous
série.
Après la série à la télé.
Bah, lui demander s'il continuait à être Harder ?
Non.
Est-ce qu'il y avait des trucages ?
Je savais pas que vous aviez cette tête là.
C'est pas loin.
Est-ce que tout lui appartient ?
C'est pas loin.
Je vous ai reconnu.
Est-ce que chez lui il y avait aussi des poutres apparentes ?
Vous êtes plus petit en vrai qu'à la télé.
Je vous ai reconnu et pas à la tête ?
C'est pas exactement ça, Frédéric.
Vous faites plus petit à la télé, enfin, je sais pas où.
C'est pas loin.
Vous me faites peur de profil.
Allez, moi je vais accepter ça parce que je crois que la phrase que vous avez dite dans une interview, François, c'est Mais dites donc, ce n'est qu'une légende, la poutre.
Oh mon Dieu.
J'ai parlé de poutre apparente, hein, moi.
Oui, mais c'est la notion de c'est plus petit que ce que je pensais.
Ouais.
C'est ça,
ouais. C'est une légende, d'accord. Bah, ouais.
Non mais elle a éclaté de rire derrière, rassurez-moi. L'eau était froide, enfin il y a un truc.
Bah forcément qu'elle était froide, enfin vous pensez bien que sinon elle aurait pas dit ça.
En même temps, ouais. Être très heureux à la plage comme ça, ça peut être très gênant.
Ça peut être la police qui vient de parler.
Ouais. Bon, passons.
C'est un personnage qui vous colle aux fesses. Enfin je veux dire qui vous suit. Qui vous a marqué ?
Oh mon Dieu. Moi je l'ai adoré ce personnage, je l'ai adoré vraiment. Parce que
et vous l'avez joué au théâtre ?
J'ai joué au théâtre. Avant Le Canard à l'Orange.
Exactement. Concernant Anne Charrier, ça se déroule dans une salle chauffée à 40 degrés. On transpire, on
du
médite.
Du yoga ?
C'est pas du yoga, non. 40 degrés.
Bah, il y a du yoga Bikram. Hein.
Ouais, voilà. C'est ça, exactement.
Bah oui, c'est du yoga.
J'attendais Bikram.
Okay.
Qu'est-ce que c'est ?
Et ben voilà, Anne Charrier va nous expliquer.
C'est un yoga qui se pratique dans une salle surchauffée, donc à 40 degrés. Et donc on transpire beaucoup et la chaleur... permet d'être plus concentré,
ah, c'est
d'être. c'est totalement ça.
Et de faire aussi, de tenir des positions aussi physiquement plus.
C'est un bacro.
Oui, ça rend plus souple. Mais moi, j'adore.
Mais
j'irai même pas vers ça. J'irai même pas le backroom, tout ça.
La dernière fois, alors là c'est une question plus, non pas sur François Vincent Elly, mais plus sur vous et votre mémoire. Puisque la dernière fois, lorsqu'il est venu dans la bande originale, François Vincent Elly nous a dit qu'il avait eu recours à un locopède. Et je voulais savoir si vous vous souvenez ce qu'était un locopède.
C'est de la chirurgie esthétique.
Un logopède.
Et bah c'est quoi,
la
c'est
prononciation
une sorte de
truc à... Absolument.
Ouais. La prononciation c'est quoi?
Bah, je suis bien placé pour en parler. Hein.
Non, c'est plus précis, c'est un orthophoniste.
C'est pas loin de ça, parce que j'avais un petit cheveu sur la langue. Que j'ai toujours.
Que vous avez travaillé. Et là, vous avez travaillé...
Il est là.
Maintenant, il est sur la côte.
Quand je bois.
Non, alors, quand il arrose un peu, et même pendant l'émission, il était un tout petit peu revenu la dernière fois, si vous vous souvenez.
Oui,
il...
c'est très léger.
Voilà, ça peut revenir très rapidement. Mais non, vous avez...
Pas l'évoquer, quoi.
Dans le canard à l'orange, vous avez un accent. Est-ce que cet accent, c'est vous qui l'avez proposé, ou il était dans les didascalies de la pièce?
Pas du tout, il n'est pas du tout dans la pièce. Un jour, j'ai proposé à Nicolas, je lui ai dit, écoute, tu vas dire non. Il m'a dit, bah quoi, je voudrais faire une lecture avec l'accent belge. Il a dit, bah vas-y. Et après la lecture, il a dit, mais banco, on le fait.
Donc il n'est pas belge.
Non, à l'origine, il n'est pas belge.
Ni néerlandais, ni...
Non. On lui a rajouté une petite belgitude.
C'est ça. Qui ne vient pas arranger, on va dire, sa vivacité d'esprit dans certaines situations. Non, mais on tombe dans le cliché. François est belge.
Oui, mais quand même.
Ça n'excuse pas tout. Il essaye d'oublier.
Non, mais ça souligne le trait. C'est-à-dire faire le naïf avec un fort accent belge, oui. ça n'aide pas la situation, on va dire.
De toute façon, les accents, à partir du moment où tu parles avec un accent, forcément, ça fait un peu rire. Quoi.
Voilà, ça marche.
Il le tient tellement bien. Quelle est la série préférée d'Anne Charrier?
Chapeau melon.
Game of Thrones. Récente ou pas?
Récente, oui.
Westworld.
Homeland, non.
House
of Cards.
Non.
Plutôt drôle ou plutôt
Downton Abbey?
Plutôt policier.
Ah bah celle où elle a joué avec Elbé?
Non.
Joséphine Ange Gardien?
Non.
C'est pas policier.
Française?
Française.
Policier.
Agatha Christie.
Engrenage.
Exactement. Engrenage.
Ah oui, engrenage.
Engrenage.
On a frisé l'électrocution.
Oui. Expliquez-nous votre passion pour Engrenage.
Bah, j'ai une passion pour Engrenage parce que je pense que c'est une série de grande qualité avec des super acteurs. Et puis parce que cette continuité, le fait qu'il y en ait eu une toutes les deux ans, je trouve que ça crée une attente. Et comme on retrouve une qualité d'écriture à chaque fois... Et vous
partagez le même appétit qu'un peu nous tous autour de la table, mais surtout Daniel Morin.
Engrenage, formidable.
Ah, moi, j'ai une passion pour Engrenage, ouais.
Puis et même et Nicolas Briançon qui porte cette saison au bout des bras, comme pendant 5 secondes.
sauf que c'est passé, maintenant on peut le dire. Tout le monde n'a pas découvert. Tout le monde n'a pas découvert. Est-ce que.
Quoi?
Dans ce genre. on a spoilé. Quand on aime ce genre de série et que l'on est comédienne, est-ce que, Anne, on regarde au générique qui fait le casting, qui est le réalisateur? Est-ce qu'on se dit j'aurais aimé être de ce projet? Est-ce que carrément on envoie un message à son agent en disant, tu sais, s'il y a un guest à faire, j'aimerais bien y aller aussi.
Oui, alors ça, on peut le dire à son agent. Maintenant, moi, j'ai jamais été très... je sais pas faire. Vous voyez...
La démarche de dire, j'aimerais travailler avec vous.
Non, la démarche de dire, j'aime beaucoup ce que vous faites, mais
ça fait plaisir,
imposer...
Ça fait plaisir,
non, parce que je crois qu'on n'impose pas le désir. Le désir d'un réalisateur ou quelque chose comme ça, on ne peut pas le forcer. C'est quelque chose... on rêve autour...
Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui aimeraient entendre de la part de comédiens ou de comédiennes un désir. Après, si c'est pas réciproque,
moi
ça,
je
ça
dis
pas,
j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aime beaucoup,
ben voilà.
Mais je n'oserais pas intégrer
de force.
Voilà.
Quel est le seul prix qu'ait reçu François Vincent Elly?
Le meilleur.
Il a reçu
le meilleur prix. Personne
dans sa vie. Oh, je pense qu'en tout cas, au total, personne ne l'a. Personne ne l'a.
Pourtant, vous le mériteriez tous.
Non. Attends, à la fin de l'émission.
Alors, c'est un prix d'œnologie.
Non.
C'est lié à du sport, une pratique sportive.
Non.
Prix de la gentillesse.
Un prix de.
Ouais. Voilà. J'ai accepté ça parce que tout à l'heure, j'étais sévère avec toi. et tu ne le méritais pas.
J'adore.
Le prix de la camaraderie.
Oui, en 84.
Ah, c'était sur une période donnée en plus.
Mais j'ai eu le prix de camaraderie
dans un camping
à l'école.
On a fini avec le background.
Non, c'était un livre sur les cétacés marins, je m'en souviens bien. Ah. Et c'était très bien, c'était un prix de camaraderie. C'était tous les élèves de la classe qui votaient, on votait chacun et c'est moi qui ai eu le plus de.
Ah, élu par ses pairs, c'est ouais. Ah, ça c'est classe.
C'est,
classe.
C'est pour ça que c'est le plus beau prix.
Ouais, ça c'est classe. Vous êtes tellement changé depuis.
Oui.
Ça, c'est clair. C'est bon. Parlons donc de cette pièce mise en scène par le sémillant Nicolas Briançon.
Anne Charrier. Coruscant, même.
Alors, Coruscant, oui, c'est vrai. C'est vrai. Il est brillant. Il est brillant. Je vous vois interpeller quelque part. Coruscant, c'est un très bel adjectif que j'ai découvert il y a peu.
Ou Coruscant, on peut dire les deux.
Coruscant.
Oui. On dit plutôt brillant, Coruscant,
vif,
d'ailleurs.
C'est brillant
et
étincelant.
C'est aussi une planète dans Star Wars.
Exactement. Avec Anne Charrier, François Vincentelli, Alice Dufour et Sophie Arthur. Alors, jusqu'où on peut raconter vous êtes l'amant, François Vincentelli, avec Anne Charrier. Vous avez prévu d'enlever une femme mariée, mariée à Nicolas Briançon.
Totalement consentante.
Elle quitte son mari. Elle se mord un tout petit peu d'ailleurs au début. C'est le mari qui, par malice,
arrive à la faire parler.
Lui fait avouer qu'elle a un amant.
Oui, oui, c'est une des caractéristiques assez jubilatoires du personnage, c'est qu'il y a une vraie lâcheté, une vraie mauvaise foi, quelque chose de.
Vous parlez de votre personnage.
De mon personnage, oui.
C'est une lâcheté où elle a pas envie de lui faire mal non plus, quoi. Elle est amoureuse de son amant. Elle le quitte.
Une petite forme de lâcheté, je pense. Ouais. Lui dit, mais tu pensais me le dire quand? Elle lui dit, deux jours plus tard.
Du départ.
On est le vendredi soir. Tu pensais m'avouer quand qu'elle allait partir lundi.
Le lendemain du départ. Voilà. J'avais prévu de partir dimanche. Je te l'aurais dit lundi.
Petite forme de lâcheté, effectivement.
Généralement, au théâtre, c'est plutôt les personnages masculins qui ont ces attributs-là. Et c'est ça qui est drôle aussi de voir cette femme qui s'empêtre dans ses mensonges, parce que quand il réussit à la retourner, à se rendre compte qu'elle n'a pas été au rendez-vous comme prévu au salon de beauté. Ils sont méchants.
Dis-elle avec un ton gourmand.
On reste dans la thématique.
Il faut dire que ce personnage masculin incarné par Nicolas Briançon, c'est un journaliste de la BBC et qu'il mène l'enquête et il parvient à vous faire avouer votre grande lâcheté en la matière.
Oui, oui, c'est ça. Et puis elle avoue un mensonge, elle avoue qu'elle a menti, mais elle continue quand même à essayer de jusqu'à ce qu'elle comprenne qu'il connaît toute la vérité. C'est pas seulement son départ, mais la date du départ, où ils vont, enfin tout.
Et c'est là où le frétillant Nicolas Briançon prend toute sa dimension. C'est-à-dire qu'il est, il est dans l'autodérision. Il se dit cocu, très bien. Il dit même cette phrase. Alors pardon, j'ai pas la réplique exactement en tête, mais quand son épouse se plaint, il lui dit non mais je comprends que tu sois malheureuse et quelle tristesse de vivre avec un mari cocu.
Je comprends que ça doit être dur d'être marié à un cocu.
Voilà, ça c'est tellement drôle. Ça, cette
elle lui dit croit surtout pas que ça m'a rendue heureuse.
Ouais, c'est pas une partie de plaisir.
Et il voilà. Il lui dit non mais attends, j'imagine bien que c'est pas une partie de plaisir être marié à un cocu.
Et puis c'est tout le ton très anglais. C'est une pièce anglaise à l'origine des vannes qui sont échangées entre les personnages, puisque peu de temps après il vous parle en faisant passer pour une idiote, et vous, votre personnage le reprend, genre, oui, je suis idiote, je suis tellement idiote que je suis resté 15 ans avec toi.
Comment ai-je pu rester marié avec toi pendant 15 ans?
Et ça dure comme ça, et c'est ça qui est fort, c'est-à-dire qu'il y a une vanne par réplique, ça aide à la construction de l'histoire, et on voit ce mari qui, et on se demande d'ailleurs quelle est sa malice, on l'a dit, c'est dans le pitch, de toute façon on ne déflore rien en disant ça, il va tout faire pour reconquérir sa femme, mais comment en s'accusant finalement, lui, de l'adultère. C'est ça la malice de la situation, c'est qu'il va dire très bien, je vais prendre pour moi tous les torts dans ce divorce. La preuve, je vais demander à ma secrétaire particulière de venir passer le week-end ici.
Un adultère et je le fais constater.
Je vais passer la nuit, voilà, je serai dans son lit lorsque le lendemain matin, donc je vais me faire gueuler. Et comme ça, j'aurai tous les torts et je paierai tout ce qu'il faut payer pour le divorce. Et là, on se dit, waouh, quel prince.
Absolument, c'est magnifique. Et encore un signe de lâcheté, elle accepte.
Mais oui.
ce qui est quand même extraordinaire. Elle lui dit, bon bah d'accord. Elle préfère que oui, l'opprobre soit jeté sur lui que sur elle.
Mais elle voit venir le piège parce que l'amant est convoqué à cette histoire aussi.
Oui, parce que c'est un joueur d'échecs, en fait, le mari.
Ça commence par une partie d'échecs.
Ça commence par une partie d'échecs. Et d'ailleurs, il dit, je ne joue pas bien aux échecs, je gagne aux échecs. Oui. Et donc, toute cette pièce, ça va être une partie d'échecs qu'il va mettre en place. Il va sacrifier son fou, il va faire des choses comme ça pour peut-être, éventuellement, et ça, il faut venir voir la pièce, gagner ou pas et retrouver sa femme.
Oui, il joue dangereusement. C'est une partie d'échecs à laquelle il joue, mais où il risque de se brûler.
Ah oui, il risque gros, mais il fait
en
ça.
En même temps, il a déjà perdu au début de la pièce, donc il risque gros.
Il ne peut pas perdre davantage que ce qu'il va perdre. Et puis, c'est ce qui est formidable dans ce personnage et c'est ce qui le rend. C'est que finalement, tous les personnages autour sont un peu des victimes de son machiavélisme et de sa mise en scène. Et puis. Et de cet esprit brillant et fulgurant qu'il a, c'est-à-dire que c'est un maître des bons mots, c'est un maître des situations.
Oui, il est entouré de gens qui sont pas aussi rapides que lui et qui sont.
Et qui croient l'être.
Mais sauf l'amant. Sauf qu'il va manipuler justement tel un joueur d'échecs. Il va manipuler le rôle de chacun,
tout le monde, y compris la bonne.
Que ce soit la gouvernante brillamment jouée par Sophie Arthur, que ce soit sa secrétaire brillamment interprétée par Alice Dufour, qui a en plus ce côté double, c'est-à-dire qu'elle a une première partie de la pièce où elle est comme ça très tirée à quatre épingles, très stricte,
secrétaire, où
elle bascule après en tigresse, en vamp, en lionne, et on sait plus d'ailleurs qui manipule qui dans cette histoire et s'il va pas se faire prendre à son propre jeu.
Ah oui, elle c'est le personnage. Moi je trouve que c'est le personnage le plus intelligent. Elle vient en
la secrétaire.
Elle vient en constater. Enfin, elle vient pour rendre service. Et puis, on comprend très vite
qu'elle est. On comprend à la fin de la pièce
que c'est. Elle, c'est le personnage libre par excellence. C'est ça. Elle vient pour servir sa cause à elle. Et elle le dit en toute. Pour le coup, il n'y a pas de lâcheté, il n'y a pas de victimisation chez elle, il n'y a pas de. Il n'y a rien de ce qui fait.
Oui, c'est le plus pur, en fait.
Les traits de.
Elle
est droite.
Elle cherche l'ascension professionnelle.
Elle veut monter à l'étage. Oui, carrément, en plus. Chaque année ou chaque période, elle veut passer à l'étage supérieur à la BBC, puisque Nicolas Briançon, le déluré, Nicolas Briançon joue dans Le Canard à l'Orange le rôle d'une vedette, un journaliste vedette de la BBC. Ici, qui a
une sorte de Nagui, hein.
Qui a non parce que lui il a beaucoup de maîtresses. C'est juste là où il y a la rupture.
C'est vrai.
Il a beaucoup de maîtresses.
Ça combien beaucoup. C'est
comme les chaussures.
Toutes celles qu'on peut utiliser. Celles qu'on peut porter.
Et ça, je peux te dire qu'il en jette pour mettre les nouvelles aussi.
Et donc, ce que je voulais dire, c'est que il est.
J'aime bien ces moments comme ça, on se laisse aller, tout. Le politiquement correct, on s'en fout.
On apprend à mieux connaître la guerre.
Oh, ouais, c'est bien.
Là aussi, où la lâcheté de ce journaliste de la BBC, c'est que lui, il a honteusement une ribambelle de maîtresse et d'un coup d'avoir sa femme qui le quitte pour un amant, ça le blesse profondément puisque c'est comme ça qu'il est en voulant être royal, princier. Et puis on voit rapidement que il manipule tout, il se moque et il va tout faire pour ridiculiser sa femme en survalorisant son amant.
Oui.
Aussi qui est dingue.
Alors c'est pas ridiculiser sa femme, je ne crois pas que ce soit son objectif, mais c'est vraiment la reconquérir, lui montrer qu'en fait elle part
avec un naze.
Ouais, elle part pour.
Pardon François.
Oui, mais c'est un rôle. Hein,
elle part pour quelqu'un qui ne le vaut pas.
C'est pas un documentaire.
C'est comme Roy Lapoutre. Hein. C'est pas la vraie. C'est pas vrai.
Ah bah non.
C'est ça son but.
J'aime bien le Anne Charrier, le « bah non ».
Ah oui, non, c'est un rôle.
Je le prends pas pour toi.
Non, mais elle, c'est toujours les frontières où on met les frontières de l'infidélité.
Ouais.
Et elles sont pas les mêmes chez lui. Pour lui, il est fidèle.
Ouais.
Il a quelques aventures, mais il n'y a qu'elle. Il n'aime qu'elle. C'est sa femme. Et elle, c'est une amoureuse. Donc, si elle est amoureuse, elle part avec quelqu'un qu'elle aime, qui l'a fait rêver.
Il y a le vieux cliché de un homme peut avoir des maîtresses, il n'en est que plus viril. Une femme qui a un amant, elle trahit, elle casse le foyer, elle abandonne ses enfants. Enfin, il y a toutes ces images-là.
Moi, je sais pas pour ce cliché-là, mais sur cette situation, oui, il existe. Bah oui. Mais je refuse de le voir.
Mais il s'explique pour des raisons économiques, par le passé, par la dépendance de la femme au foyer.
D'ailleurs, ce qui est présent aussi dans la pièce, cette femme, elle passe de l'arrangement qu'ils font est aussi un arrangement financier. Ouais. C'est-à-dire que elle, on ne sait pas très bien ce qu'elle fait à côté. Elle est femme d'eux, mère d'eux. Mm-hmm. Elle n'a pas de
statut en soi. On sait que l'amant a beaucoup de moyens, qu'il a des hectares de terrain, qu'il est d'une riche famille.
C'est le prince charmant dans Shrek. Voilà,
Waouh, oui. Alors là, on va trop loin, les gens.
C'est pas vous, François, encore une fois.
Ah, c'est vrai, t'es passé à ça d'être
l'âme. C'est charmant, il est beau, il est riche, il est...
Il est con, il est dur.
Ça va, François-Vincent Tellier?
Tout va bien, tout va bien. J'aurais jamais dû venir.
Nous parlerons
avec... Si on parlait du personnage, maintenant.
Nous parlerons tout à l'heure avec Caroline Veil, justement, qui est psychanalyste, psychologue, clinicienne, juste de l'infidélité... d'ailleurs, de savoir si ça touche hommes et femmes sans distinction, est-ce qu'il y a
faut être deux en même temps,
un équilibre. Non, 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 mais est-ce qu'il y a autant de femmes infidèles que d'hommes infidèles?
S'il y a autant de gens en couple, ça s'équilibre.
C'est bizarre quand c'est pas équilibré.
Oui, c'est bizarre. Ça veut dire que tu te trompes tout seul. Faut tromper. Si tu trompes ta femme, c'est avec une autre femme. Donc, vraisemblablement, elle aussi,
pas
si elle est en couple, elle trompe.
Ah, bah oui, mais si elle n'est pas en couple.
Et oui, mais il n'y a pas que des célibataires femmes, tu vois. Et il y a des célibataires hommes, pareil.
Non, mais j'abandonne.
Qu'on a un spécialiste.
Je pense qu'il faut laisser parler les spécialistes.
J'abandonne.
Laisser
parler les gens compétents.
J'abandonne.
Laisser parler les gens tout court. En règle générale.
Pas trop en demander non plus. Hein.
Dans la vie.
C'est un nouveau concept pour l'émission.
Cette pièce, donc, interprétée par Sophie Arthur, Alice Dufour, François-Vincent Tellier, Anne Charrier, qui sont nos invités, mise en scène et jouée par le Lest Nicolas Briançon. C'est au théâtre.
Lest, j'aime bien.
C'est au théâtre.
Et c'est tellement lui.
C'est au théâtre de la Michaudière. Jean-Pierre Coff.
Mais enfin, mon cher Nagui, vous allez me poser une question. Mais vous me posez une question d'une évidence. Pardonnez-moi le jeu de mots un peu facile, mais avec ce canard à l'orange, on a la recette d'un succès annoncé. Alors d'abord, ce canard est impeccablement servi, vous venez de le dire, par Anne Charrier, comédienne délicieuse, et par François-Vincent Tellier, acteur poutré au flegme délectable. Alors durant toute la pièce, ils nous mettent en appétit. Et le public se régale. Mon cousin Jean-Pierre aurait adoré. C'est un texte goûteux, léger à la fois, des dialogues savoureux, pimentés jusqu'il faut de bons mots et de répliques piquantes, coruscantes, on l'a dit. De l'ironie mais sans trop d'amertume, et toujours relevé d'une pointe de fantaisie et de folie, exempte de ces vulgarités de basse cuisine, de ces calembours trop poivrés, plaisanteries bourratives qui alourdissent trop souvent les pièces de boulevard, parce que faut avoir l'honnêteté de le dire, Nagui, il y a des pièces, c'est de la merde.
Calmez-vous.
Et je vous parle pas de l'humour indigeste de certains de vos collaborateurs. Alors, je m'énerve, Nagui, mais...
Condisciple.
Condisciple, oui. Vous l'étiez plus que moi tout à l'heure, quand JNB, qui soit dit en passant, m'a toujours pas passé sa recette du gratin de courge au coulommier, quand JNB a expliqué qu'Anne Charrier et François-Vincent Tellier venaient pour le canard à l'orange. Le canard à l'orange? Mais c'est une très très vieille pièce. Ah, ils s'emmerdent pas les théâtreux. Ils nous ressortent du saloir une vieille comédie qui a super bien marché il y a 50 ans et ils remettent le couvert. Fastoche. Mais oh mon bon maître, c'est une pièce très drôle. Désormais un classique intemporel. Aïe, aïe! Et cette baffe dans ta gueule, elle était intemporelle. Mais mon cher patron, le personnage principal, Hugues Preston, comme vous, est animateur vedette à la télévision et il a de nombreuses maîtresses. Aïe, aïe. Voilà, cher Anne Charrier, cher François-Vincent Tellier, comment se mitonne la bande originale dans le mépris de notre patrimoine théâtral, dans l'atrophie du bon goût et la défense de l'adultère. Alors Nagui, j'ai pas le temps de vous donner ma recette du phoque à l'orange. J'ai pas le temps.
Non, non, vous n'avez pas le temps, non.
Parce que vous prenez une tête de phoque bien fraîche. Oh. Acheté à la criée du Crotoy. Non. Alors, bonne émission.
Merci, Albert Alcou.
La bande originale, lundi, sur France Inter.
Et je crois que c'est l'agile Nicolas Briançon qui vous a contacté, qui avait l'idée de monter cette pièce. Comment ça s'est passé? Parce que vous l'avez présentée à Angers avant de jouer à la Michaudière.
On avait très envie de...
Un très beau théâtre, d'ailleurs, parisien, au théâtre de la Michaudière.
Magnifique.
Ouais. On est très bien assis, d'ailleurs.
C'est important.
Et on a des très belles loges aussi.
Des très belles loges, ouais.
Non, 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 mais
non, vraiment, on est bien.
Le lieu aide à passer une bonne soirée. Oui, c'est important de le préciser.
C'est important d'être bien assis. Ouais.
Oui. On est très bien assis.
Donc Angers, oui, racontez-nous comment s'est montée cette pièce.
Oui, en fait, on avait très envie de travailler avec Nicolas. Donc ouais. On avait émis ce désir-là en se voyant. Et puis, moi, j'avais tourné avec... comment tu t'appelles déjà? Avec François. Et on
s'était tourné quoi?
On avait tourné Marjorie ensemble.
D'accord.
Et on s'était dit qu'on aimerait bien aussi se croiser sur une scène de théâtre. Et voilà, ça s'est fait comme ça, en fait.
L'iconoclaste Nicolas Briançon, un jour, a dit « Venez, on va lire Le Canard à l'orange. » Et on a été chez lui lire Le Canard à l'orange et boire un petit thé. Hein, avec l'équipe de base.
Avec un cake à l'orange, parce qu'on aime bien l'orange.
Voilà. Mais ça veut dire que vous êtes préemptés les uns les autres. Quoi,
mais fait, on s'est dit, voilà, qui est libre? Sophie Arthur, Alice Dufour, on s'est mis autour d'une table, on a lu ça.
Et on a tellement ri.
Aviez-vous en tête le texte, le jeu? Je ne sais pas s'il y a eu des captation faite de Jean Poiré à l'époque.
Il y en a eu, je l'ai vu. Oui.
Voilà. Est-ce que vous aviez ça en tête? Est-ce que vous avez revu ça ou pas du tout?
Non.
Ou est-ce justement le guilleret Nicolas Briançon qui a fait ses propositions de mise en scène?
Mais c'est vrai que c'est l'extraordinaire Nicolas Briançon qui a eu l'idée en premier. Moi, j'ai rien regardé, mais j'avais cette espèce de souvenir de au théâtre ce soir qu'on regardait chez mes grands-parents sur des sièges en formica
mal assis,
devant
alors.
La télé. Ouais, on s'endormait comme ça et puis hop, on entendait les voix. Donc moi, j'avais ce souvenir-là du théâtre, mais pas de la pièce, très vaguement. Et puis, on l'a lu.
Parce qu'elle est très moderne. Très moderne. Avec cet humour anglais, je tiens à le préciser.
Elle est très moderne. Elle est de 66. Et il y a donc il y a quand même de la misogynie très amusante. Mais
c'est ce qui lui donne un peu de modernité, finalement.
Non. Alors, moi, je ne parle pas dans la situation. Je parle dans les vannes et dans l'autodérision, dans le ping-pong,
dans la rythmique.
Voilà, c'est ça. Et tous les personnages ont leur contenance, ont leur pic à un moment donné.
Ah oui, oui.
Et ça, ça doit être agréable pour les cinq, exactement.
Oui, et puis il y a quelque chose de la grande qualité des pièces de Boulevard, c'est qu'effectivement, ça n'est pas grave qu'elles soient un peu datées sur socialement, c'est ce qui fait la qualité des Fédos, et c'est que c'est la rythmique. C'est le fait que ça aille
très, très vite.
Toujours, qu'on soit emporté en même temps que l'action, et qu'un rire en emporte un autre, et que voilà.
Ça s'appelle donc Le Canard à l'orange. La pièce est, je ne l'ai pas dit, de William Douglas Home, et une adaptation de Marc Gilbert Sauvageon. Ça se passe au théâtre de la Michaudière, mise en scène par l'étincelant Nicolas Briançon. Alexis Le Rossignol, avez-vous un pressentiment pour le mois de février?
Oui, j'ai un pressentiment. À mon avis, on attaque le dernier mois du mouvement des Gilets jaunes. Je ne suis pas Madame Soleil, hein. No soy Doña Sol, comme on dit au Pérou, mais je sens que le vent tourne. Au début, c'était sympa, c'était spontané, les petites cabanes sur les ronds-points, les feux de palette, on était entre la guinguette et le marché de Noël, mais là, j'ai l'impression que ça s'essouffle un peu des deux côtés. Côté gouvernement, on sent que Macron a envie de dire « j'ai fait mon mea culpa », en même temps, on a bloqué le prix de l'essence, en même temps, on vous a mis une rallonge financière, ça suffit. Si vous continuez à réclamer des référendums, je fais remplacer Karine Le Marchand par Nathalie Saint-Cricq dans L'Amour et dans le Pré.
Oula !
Je suis un ouf dans ma tête, moi.
Ah ouais.
Côté gilet jaune, ça va pas fort non plus. Mardi, Maxime Nicole, alias Fly Rider, le gilet jaune à qui personne n'ose dire vous avez une casquette à l'envers là. Alors question crédibilité, je sais pas si il a menacé de quitter la France en l'absence d'avancées concrètes dans les 15 prochains jours.
Ouh, ça fait peur.
Donc après le chantage au suicide et la grève de la faim, en 2019, tu peux poser un ultimatum à ton pays. Stratégiquement, quand tu es gilet jaune, je vois pas bien l'intérêt d'une telle menace. Il s'attend à quoi? Plan Vigipirate renforcé, fermeture des aéroports et des frontières, attention, un opposant tente de s'enfuir, retenez-le. À la base, tu te dis, je te préviens, je vais partir à une personne qui n'a pas du tout intérêt à ce que tu partes. Là, c'est un peu comme si quelqu'un était garé sur ta place de parking et tu lui disais, oh, c'est ma place, hein? Si tu dégages pas tout de suite, moi, je vais me garer ailleurs. Une situation que vous ne connaîtrez jamais, Nagui, puisque vous vous garez sur les places handicapées. Après, le risque, c'est l'effet de groupe. Si tous les grands penseurs quittent le pays, c'est vrai que ce ne sera plus la même chose. Donc, on imagine bien l'inquiétude du gouvernement depuis 3 jours. Vous croyez qu'il est capable de le faire? Et s'il organise la résistance depuis Londres, on est foutu. Dans sa vidéo, Monsieur Flyrider explique que s'il part, il va demander le droit d'asile constitutionnel.
L'asile constitutionnel, c'est quoi? Ben, c'est ce qu'on appelle vulgairement l'asile politique. Mais comme les gilets jaunes sont apolitiques, techniquement, il est obligé de dire constitutionnel. Alors, dans les faits, pour obtenir l'asile, il faut que la personne soit victime de persécution dans son pays d'origine. Donc là, les passages télé, ça va pas l'aider. On sent un peu trop l'écoute des revendications face à la persécution. Je l'imagine arriver en Turquie ou en Russie. Bonjour, monsieur Poutine. Je suis un intellectuel gilet jaune et je suis persécuté dans mon pays. Est-ce que vous pourriez m'aider ? L'asile politique est aussi accordé pour un engagement actif en faveur de l'instauration d'un régime démocratique. Bon, ben, c'est vrai que la démocratie, c'est pas dans la tradition française, là, quand même. La preuve, c'est que démocratie, ça vient du grec, hein, pas du français. En France, depuis la fin de l'Ancien Régime, c'est dictature sur dictature. Souvenez-vous de François Hollande, dit François le Dur. C'est pour ça qu'on peut pas vraiment s'apitoyer sur le Venezuela quand on voit ce qu'on vit ici. Après, je sais que c'est l'exaspération.
On a perdu Fred.
C'est l'exaspération des injustices sociales qui pousse Maxime Nicole à partir. Et sur le fond, il a raison. Les inégalités, c'est l'exception française. Ailleurs, il n'y a pas ces disparités. Si on prend au hasard quelques pays d'Europe, comme, je sais pas moi, le Liechtenstein, Andorre et le Vatican, ben, les inégalités n'existent pas. Bref, il reste 12 jours au gouvernement pour réussir à conserver un citoyen courageux qui se dit prêt à prendre une décision inédite, celle d'être le premier opposant politique à disparaître de lui-même. Où va-t-il aller ? Mystère. Personne ne sait. Il est peut-être en train de chercher des bons plans sur Last Minute dans la catégorie soleil et justice sociale. Ou peut-être qu'il avait calé ses vacances à l'étranger avant le début du mouvement des Gilets jaunes et qu'il en profite pour faire un peu de buzz. Ou peut-être que tout ça finira finalement comme le combat entre Booba et Karis, tout le monde en parle, on se prend au jeu, on espère que ça va arriver, puis finalement, rien. Encore un effet d'annonce. Mais ça, je veux pas y croire. Faut pas lâcher une idée comme ça.
Merci Alexis Rossignol. Pour bien démarrer ce mois de février, puisque nous sommes le 1er février.
Et pour bien démarrer, il faut aller voir Alexis Le Rossignol au Point Virgule. C'est tous les dimanches à 17h30.
La musique dans vos vies, alors la musique est présente également dans la pièce de théâtre. C'est Blue Moon qui est votre danse finalement, musique de couple.
Oui, voilà, c'est la musique de la pièce. Et elle est orchestrée différemment selon les passages et les moments qu'elle illustre.
Et les moments du couple aussi. La musique dans vos vies, cette fois-ci d'être humain et plus d'artiste au théâtre de la Michaudière, en 99, Anne Charrier, écoutez. Vous entendez cette musique, vous voyez quoi comme image 99 ?
Alors, je peux pas vous dire que j'ai une image
précise,
immédiate, mais j'ai un sentiment, c'est-à-dire que c'est une musique qui symbolise la fin d'une période d'errance. C'est-à-dire que j'ai après le bac, voilà, je suis partie, j'ai été à la fac, j'ai fait plein de petits boulots, mais j'avais pas de, mon objectif était incertain et impalpalpable.
On a des doutes dans ces cas-là sur son avenir, son devenir.
Ouais, mais c'est une adolescence qui dure jusqu'en 99. Hein. J'étais assez âgée à l'époque. Donc c'est une adolescence extrêmement tardive.
On a peur. On se dit, je me suis peut-être trompé de choix dans ma vie.
J'aurais peut-être pas dû faire.
Non, mais c'est long. C'est trop long. En fait, et là, il va falloir prendre des décisions. Et cette musique-là, elle est le symbole d'une prise de décision, de dire voilà, non, stop, on arrête, on va se concentrer. On arrête tous les à côté, les expédients. Et pour trouver pour aller vraiment vers. C'est un manque de courage aussi de se dire.
Ok, donc c'est-à-dire vous arrêtez tous les petits boulots que vous faisiez.
Ah non, ça j'ai pas pu arrêter tous les petits boulots.
Alors vous arrêtez quoi ?
La fac, le.
La drogue. C'est les expédients, c'est ça que vous appelez les expédients.
On a bien compris. Non, les expédients, c'est les
extasies, tu veux dire.
Ah oui, aussi. Voilà. Non, mais. L'errance. J'arrête l'errance.
Et pour prendre quelle décision ?
Pour faire du théâtre.
Pour faire du théâtre, parce que finalement, vous dites c'est un manque de c'est peut-être un manque de confiance aussi de se dire, vous racontant dans les interviews que la culture elle n'était pas là à la maison forcément partout, donc tout d'un coup décider de faire ce métier alors qu'on n'a aucun modèle autour de soi, c'est aussi se jeter un peu dans une forme d'inconnu.
Oui c'est ça, c'est couper les ponts en fait, c'est couper, se dire non bah en fait ça sera ça.
Ouais.
Voilà, je vais arrêter de faire des choses à côté. pour rassurer tout le monde et je ne vais faire que ça.
Donc départ à Paris, et là vous jouez votre premier rôle au théâtre, La Nuit des Rois,
oui,
de Shakespeare. Quel beau première fois.
Ah oui, c'était magnifique, et puis c'était une équipe dingue, on jouait au Lucernaire, je venais faire un remplacement et c'est resté des amis, David Roussel qui maintenant s'occupe du Théâtre des Béliers, toute cette bande-là, c'est resté des amis, des Clément Michel.
Donc c'est encore plus touchant pour vous dans Le Canard à l'Orange d'avoir comme réplique « J'adore Shakespeare ».
Oui. Oui. Alors, en même temps, c'est vrai, j'adore Shakespeare.
Mais non, mais...
Qui n'aime pas Shakespeare?
Daniel Morin.
Je déteste Shakespeare, c'est vraiment un sale con.
France
ne supporte pas.
Oui, France, c'est une histoire de
mauvais camarade. Ah, c'est
personnel. Ouais. Il a piqué une meuf, c'est un truc de
Il y a une petite histoire d'infidélité, peut-être. Ouais.
Mais il travaillait ici avant Stéphane Bern, non?
En même temps.
En même temps, dans la même coupe de cheveux.
François Vincent Telly, en 99, vous écoutiez.
Je lui aime et je le sème sur ma planète.
Et là, que voyez-vous comme image? Vous êtes où, à quel moment, écoutant M en 99?
Je suis à Paris, je joue le Nouveau Testament de Sacha Guitry avec Jean-Pierre Marielle et Françoise Fabian au Théâtre des Variétés.
C'est chic.
Mon directeur est Jean-Paul Belmondo.
Oh là.
Je passe dans. J'ai des souvenirs assez incroyables où je suis dans la loge de Jean-Pierre Marielle avec Pierre Vernier, Rochefort, Noiret, Belmondo.
Waouh!
Et moi. Et je les entends parler et je me dis...
Mais et là, quand on se fait petit dans un coin en disant...
Je sais que je suis en train de vivre un moment rare. Ils disaient que de la merde, hein, mais c'était formidable.
Il y a merde et merde. Hein.
C'était des merdes avec des voix.
C'était eux.
Et voilà, c'était...
C'est ça.
Oh bah oui.
Ah,
oui. Oh. Voilà.
C'est le sens de la conversation quand même.
C'était merveilleux.
C'est moche l'alcool.
Et Jean-Pierre Marielle, c'est pas une rencontre comme les autres parce qu'il y a vraiment eu un vrai lien que vous avez tissé ensemble.
Oui, bien sûr.
Vous êtes encore très proche de son fils.
De François Marielle et puis de Jean-Pierre et que je vois encore régulièrement. Et c'est un homme que j'aime profondément, qui m'a beaucoup appris.
Qu'est-ce qu'il a reconnu en vous pour vous aimer autant
Je me rappelle très bien, j'ai passé une audition pour cette pièce où il était dans la salle avec Bernard Murat. J'ai passé l'audition et au bout de trois phrases, il s'est levé, il a fait « Oh, il est bien !» Oh. Puis il s'appelle François comme mon fils et il est grand. Ça sera lui.
Vous le tenez bien en tout cas.
Oh, oui.
Est-ce que ces acteurs, ces grands noms qui peuvent être très intimidants, est-ce qu'ils ont quand même la main tendue pour la transmission? Est-ce qu'ils ont aussi une bienveillance avec les, entre guillemets, petits jeunes qui débarquent?
Tellement, mais tellement. Pour moi, c'est des exemples profonds parce que je sais aussi que, par exemple, Belmondo, quand je lui ai présenté ma mère qui était forcément amoureuse de lui, il a été tellement gentil, il lui a dit tellement des choses incroyables sur moi en me disant que j'étais un grand acteur, ce qui n'était pas faux, hein, évidemment.
mais dire à ma mère, comédien ce Belmondo, même vous l'avez cru.
Voilà. Non, mais vraiment. Et Marielle, parce que j'étais tout vert, enfin, j'étais tout sorti de l'œuf, et ils m'ont pris vraiment sous leurs ailes.
C'est cool. C'est bien de le savoir, en tout cas. 2008, vous écoutiez à ce moment-là Anne Charrier. Vous êtes très pointu dans vos choix musicaux, hein, entre les Kills et My Manson.
Oui.
Bah si, c'est pointu. C'est pas
en même temps, tout le monde a reconnu ce morceau.
Oui,
hein,
mais c'est pas le hit parade non plus.
Non, j'aime bien.
Auquel on a l'habitude, c'est pointu.
J'aime bien le rock, hein, quand même. Et les Kills, parce que cet album, il est dingue. Et c'est l'album de cette période-là. Je l'écoutais en boucle. Je me souviens, j'étais sur un tournage et j'avais un assistant qui me disait toujours, alors t'écoutes quoi maintenant? Bah, The Kills. Ouais, The Kills. Donc voilà, c'est une période.
La musique, ça vous aide à quoi? À vous concentrer? Ça vous évade? Vous écoutez les textes en particulier? C'est que le tempo?
Là, par exemple, je suis incapable de. Alors que je parle pas mal anglais, je ne sais pas du tout de quoi elle parle, si ce n'est la tornade et le petit ouragan. Je ne sais pas quel sujet de la chanson.
D'accord.
Non, c'est vraiment un rythme, un ressenti, une émotion. C'est d'ailleurs. C'est en ça que ça se rapproche de ce qu'on fait, nous. C'est que ça nous amène à une. Moi, ça m'a. Je ne sais pas si tu travailles de cette façon-là aussi, mais moi, j'ai souvent des morceaux pour des périodes de travail, des choses qui vont m'amener à une émotion plus rapidement ou à un sentiment ou quelque...
Quoi?
Qu'est-ce que vous avez?
Mais pas du tout.
Voilà, y avait, c'est de la facilité. On se facilite la vie, en fait. Moi, ça me facilite la vie, la musique.
Non, j'entends.
Et près de 10 ans après votre premier rôle au théâtre, c'est votre premier rôle au cinéma, cette fois-ci, en 2008. C'est dans le film d'Olivier Marchal, MR73. Ça arrive. Est-ce que ça arrive trop tardivement pour vous, le cinéma, ou votre vie, elle était tellement faite de théâtre que ça s'est pas posé?
Non, ça s'est pas vraiment posé. C'est-à-dire que je me dis bon, ça se fait pas, mais j'étais pas dans une contrition où j'avais. J'ai eu cette chance toujours de travailler et du coup de pas me retourner tellement en me disant mais pourquoi je suis pas là moi? Pourquoi je suis pas en fait. Ça a été tellement une chance de pouvoir exercer ce métier. C'est tellement une chance toujours que après j'ai plus les mêmes exigences que quand j'ai commencé. Bien sûr, mais voilà, je fais mon petit bout de chemin. Je me retourne pas trop. Non, je me suis jamais dit pourquoi je fais pas davantage de cinéma.
Ouais, non, mais parce que
surtout parfois... avec cette voix.
Au couteau à beurre et clac, clac, clac.
Ouais. C'est exactement.
Dans ces années 2008, vous écoutiez François Vincent Elly. Perfect Day de Lou Reed. Alors tout à l'heure, Anne Charrier disait que la musique procurait des émotions. Ce qui est formidable avec cette chanson, c'est qu'elle peut aussi bien procurer du plaisir, du sourire que des larmes.
Ouais.
Et vous, elle vous procure quoi, Perfect Day?
Une nostalgie folle. Une nostalgie folle. Non, parce que j'aime profondément cette chanson, parce que je la trouve incroyable.
Alors,
je la
nostalgie trouve... de quoi? De quelle période? De quelle?
Alors, c'était la
histoire d'amour, c'est quoi?
Non, pas du tout. C'était la musique d'une pièce de théâtre que j'ai jouée il y a extrêmement longtemps, une pièce de Shakespeare, Périclès, prince de Tyr, en Belgique. Prince de Tyr.
Non, t'as pas le droit.
Non,
t'as pas le droit. T'as pas le droit, pas toi. Non,
pas toi. Mais
c'est honteux. Et en plus, t'as pas le droit.
C'est le petit rire. Comme ça, le petit rire.
Mais se cache derrière.
T'y quand même. T'y.
T'as pas le droit, Leïla.
Bref.
Non, mais c'est bien.
Une ville.
Je sais.
Mais c'est vrai que Roy Laboud, prince de Tyr, il y a un moment où il y a trop d'informations. Pour Leïla, il y a trop d'informations qui arrivent.
Moi, je fais des sens comme ça, avec un truc caché.
Non, mais voilà.
Bon. Et oui.
Et oui.
Et vous incarnez dans Clara Scheller.
Voilà, vous êtes dans Clara Scheller en 2008, François, et vous incarnez un personnage homosexuel. Et vous vous étonnez, à cette époque-là, qu'on vous dise... Pourquoi est-ce que t'as décidé d'accepter ce rôle?
Ah oui, j'ai eu plein de réactions incroyables, incroyable. Je m'en rendais pas compte.
Ça s'appelle des réactions homophobes.
Oui, carrément, mais je m'en rendais pas compte à quel point.
C'est choqué.
C'est vraiment pas réglé l'histoire. Encore moins aujourd'hui, hein, parce qu'on fait une régression totale quand on voit.
Les agressions dans les rues.
C'est vrai.
Comme disait l'Eurovision.
C'est terrible.
L'Eurovision, ça n'arrête pas.
C'est affreux. Donc, et j'ai eu des réactions de gens qui ne sont pas de gens que je connais, que je pense pas. Enfin, des gens qui ne sont pas des débiles profonds, qui m'ont dit mais pourquoi t'as fait ça? Aucun salaire ne justifie ce que tu as fait.
Non.
J'ai eu ça.
L'avantage, c'est qu'on fait un tri de potes très rapidement.
On vous a même demandé de vous justifier sur votre propre sexualité.
Alors j'ai fait l'émission de Jean-Luc Delarue parce qu'on faisait de la promo et c'est le truc c'était je découvre mon homosexualité sur le tard. Bon, on était invité ça et il y a eu une question d'un homme visiblement qui était homosexuel et qui m'a demandé si j'étais homosexuel.
Ouais.
Et je me l'ai un peu mal pris, je lui ai dit mais en fait ça vous regarde pas, c'est très personnel. Bien sûr. Si vous voulez savoir si je suis juif ou gaucher ou enfin c'est pas. Et donc,
ça, c'était ma question 2 et 3.
Donc, le fait de ne pas répondre,
c'est devenu suspicieux.
J'étais considéré. Donc, il y avait j'étais homosexuel.
Bon, et alors, c'est pas votre problème.
Voilà, c'est ça. Et je trouve ça, je trouve ça. Non, mais c'est fou, c'est dingue,
c'est dingue. Voilà. Revenons au sujet de la pièce, Le Canard à l'Orange, que vous interprétez au théâtre de la Michaudière. Anne Charrier, François Vincent Ellis sont nos invités. Caroline Veil est également notre invitée. Merci de venir à ce micro, Caroline. Vous êtes psychanalyste, psychologue clinicienne. Vous intervenez régulièrement chez notre copine Daphné Burki sur France 2 l'après-midi dans Je t'aime, etc. Entre 15 et 16 heures sur la 2. L'infidélité, la première question qui vient d'abord, est-ce qu'il est pratiquement, mécaniquement inévitable de tromper?
Inévitable, non, on peut toujours s'empêcher et lutter contre ses pulsions. Mais je crois qu'au départ, le tort qu'on a, c'est de considérer que l'infidélité, elle est naturelle. C'est pas dans l'ordre des choses, la monogamie, c'est pas naturel.
J'ai pas compris. Alors, qu'est-ce qui est pas naturel? Rester avec une seule et unique partenaire?
La monogamie, c'est pas naturel. La fidélité, c'est une construction purement symbolique de l'homme. Et puis, le tort qu'on a, peut-être, c'est d'avoir lié au départ.
J'ai pas compris, Caroline, je suis désolé.
Je recommence.
Non, je n'ai pas compris qu'est-ce qui était naturel ou qu'est-ce qui n'est pas naturel.
La monogamie n'est pas naturelle.
Ça c'est établi, vous le dites.
Oui, c'est une construction symbolique.
Qu'est-ce que vous entendez par monogamie? C'est-à-dire, si j'ai plusieurs partenaires dans ma vie, finalement, parce que je reste 10 ans avec l'un, 10 ans avec l'autre, etc. Finalement, j'ai eu plusieurs partenaires ou plusieurs partenaires ensemble?
C'est-à-dire que c'est différent.
Pas dans la même soirée, mais dans le même temps, quoi. Voilà.
Leïla, c'est pas possible.
L'infidélité.
Autrement dit, la différence.
Comptez 2 heures d'intervalle à chaque fois, quand même.
C'est la différence. C'est un par un ou l'un après l'autre. Voilà. C'est ça?
Non. On va dire que, si vous voulez, la monogamie, oui, ça serait un par un éventuellement, parce qu'aujourd'hui, quand même, avec l'allongement de la durée de la vie, il faut bien voir que si on se rencontre aux alentours de 25-50 ans, on prend à peu près 50 ans avec la même personne.
On prend, c'est comme une peine de prison.
Mais il faut être un peu réaliste, voilà. Et on va exiger d'une seule et même personne, parce qu'on idéalise complètement l'amour, qu'elle soit avec vous dans ce rapport d'exclusivité. Or, on a fait de la fidélité, hein, pas l'infidélité, on a fait de la fidélité au départ le corollaire de l'amour. Mais la fidélité, elle n'a pas été instaurée pour ça. La fidélité, elle a été tout simplement...
Elle est quoi? Elle est religieuse, la fidélité?
Non, elle est mise en place pour éviter qu'on ne transmette ses biens à quelqu'un qui ne serait pas de son sang. Mmh. Voilà le vrai...
Carrément.
C'est ça le problème. Ouais. C'est ça le concept de la fidélité.
C'est un truc bourgeois.
Voilà. Oui, c'est un truc bourgeois.
Non, pas seulement, parce que même le peu qu'on avait, on n'avait pas envie qu'il soit disséminé.
Oui, un paysan avec sa terre et ainsi de suite.
Voilà. Mais... Et on l'a lié à l'amour. On l'a lié à l'amour. Après, on en a fait le garant de l'amour. Si tu m'aimes, donc tu vas être fidèle toute ta vie.
Mais alors, à l'inverse, pourquoi tromper? Si on est avec quelqu'un et qu'on est bien avec quelqu'un, quel est le réflexe de tromper? Il y a un côté, c'est plus fort que soi, c'est pour se rassurer, c'est comme pour se redonner un peu plus de vie.
Il y a autant de raisons de tromper, peut-être qu'il y aurait d'individus. En tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que...
Vous êtes très pessimiste sur la fidélité et le couple, hein, vous?
Je suis pas pessimiste, je suis réaliste.
C'est divorcé. Un peu.
Et puis, je vois surtout ce que j'entends. Enfin, j'entends surtout beaucoup de choses dans mon cabinet.
Il est normal de venir dans votre cabinet au moment où il y a un problème au sein du couple. Ceux qui sont fidèles, amoureux et qui vont bien ne vont pas aller voir une psychanalyste.
Ça peut arriver, mais pour d'autres raisons.
Ils vont venir voir en disant j'ai un problème, je suis fidèle et amoureux de ma femme.
Non, ils peuvent se demander comment ça va se passer pour eux dans les 20 prochaines années.
C'est le côté voyance. Non, mais Caroline, ce que je veux dire, c'est que quand tout va bien, quand tout va bien, on va pas chez le docteur.
Non, quand tout va bien, on va pas chez le docteur.
Donc évidemment, le docteur peut dire il n'y a que des gens malades puisque il ne voit que des gens malades dans son cabinet.
Oui, enfin, on va dire que c'est un sujet qui est assez récurrent, l'infidélité.
Très bien. Revenons. Alors pourquoi tromper?
Alors on trompe parce que la transgression, c'est quand même très excitant. Hein. L'interdit, c'est quelque chose qui suscite toujours autant d'intérêt. Et puis, on trompe aussi parce qu'on va chercher une réassurance narcissique. On trompe parce qu'on est dans une phase de transition et qu'on cherche une autre image de soi et qu'on a envie d'être quelqu'un d'autre, d'insuffler un peu de peps, de retrouver les émois quand on est amoureux.
Ce que vous dites est aussi valable pour les hommes que pour les femmes?
Oui, aussi bien l'un que l'autre. Voilà. Alors, parce qu'on a beau dire que les femmes, c'est pas la même chose, je suis pas tout à fait d'accord avec vous, comme si les femmes, elles, n'étaient pas traversées de pulsions.
Qui a dit ça?
Souvent les hommes le disent.
Non, non, justement, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit que c'était un cliché.
Ouais, non, vous vous dites rien, mais vous avez raison de ne rien dire, mais c'est vrai que c'est un...
Surtout toi, Fred.
C'est là que t'es le meilleur.
C'est
la contemplation.
C'est assez machiste, je vois pas pourquoi les femmes, elles auraient pas les mêmes pulsions que les hommes.
Totalement d'accord. Totalement d'accord.
Sur
l'infidélité, IN, sur l'infidélité, est-elle la même lorsqu'elle ne dure que le temps d'une aventure, que ce soit un soir ou deux, ou lorsque ce sont deux vies parallèles qui sont menées de front?
Bah, ça n'a rien à voir.
Est-ce que vous la qualifiez de la même manière?
Non, c'est pas la même chose. On va dire que le coup de canif dans le contrat, c'est-à-dire un coup d'un soir, non, ça n'a pas la même valeur que quelqu'un que vous mettez, que vous installez dans vos meubles, c'est-à-dire une vie parallèle à côté, qui implique une certaine forme d'engagement, à la fois d'engagement amoureux et d'engagement aussi dans la continuité. Vous allez faire de cette infidélité quelque chose de pérenne. Donc, non, ça n'a pas la même force et ça n'a pas la même valeur.
Qu'est-ce que vous conseilleriez ?
Bah personnellement c'est pas à moi de décider, c'est plutôt au monsieur ou à la dame de juger. Je crois que c'est
non, vous êtes
très
pas
difficile.
En train d'expliquer qu'il faut pardonner le fameux coup de canif dont vous parlez.
Écoutez, il faut pardonner. Qu'est-ce qui est mieux ?
Vous ne pas le dire, c'est ça ?
De toute façon, parce que si on le dit...
C'est monstrueux ce qui se passe sur cette antenne. C'est monstrueux. Donc, il faut tromper...
C'est une question récurrente ici. C'est une question récurrente.
Il faut tromper... Pardon Albert, mais c'est le sujet. Et de la pièce et son métier.
Non, mais justement,
donc vous dites, il faut tromper.
Je dis pas il faut tromper.
Ça réveille des fantasmes, ça.
Je dis pas il faut tromper. Non, j'ai pas dit il faut tromper. J'ai dit l'infidélité, elle est pas si grave. En tout cas, c'est pas un acte criminel. Elle est pas pathologique.
Ensuite, vous dites le coup de canif, c'est moins grave que la double vie et le mensonge et la tromperie.
Voilà, parce que là, vous installez votre couple dans une duplicité.
Mais vous pouvez comprendre que une femme trompée. Le mari dit non, mais c'était juste un soir, c'est rien. Vous pouvez comprendre que la femme se sente blessée, humiliée, vexée.
Bien sûr, parce qu'elle va se poser la question, pourquoi est-ce qu'il a besoin d'aller voir ailleurs? Qu'est-ce qu'une autre a de mieux et de plus que moi? Donc c'est forcément une remise en cause personnelle
Et donc ça peut être la fin du couple?
Ça peut être la fin du couple, mais je crois qu'il faut comprendre que quand l'autre va voir ailleurs, c'est pas forcément de votre faute. Mmh. Parce que très souvent, les gens qui trompent... les gens qui trompent, ils vont vous dire oui, je t'ai trompé, mais aussi regarde tout ce que tu fais ou tout ce que tu m'as fait, ce qui est quand même une lâcheté absolue. Or, la plupart du temps, quand on trompe, ça a à voir avec son histoire personnelle à soi. On trompe parce que, pas pour aller chercher quelqu'un d'autre, mais pour avoir une autre image plus valorisante de soi-même.
Et alors donc, ça peut donner un second souffle au couple qui tombait dans une espèce de monotonie, c'est-à-dire est-ce que...
On peut ramener des trucs ?
Est-ce qu'un mari ou une épouse peuvent retomber encore plus amoureuses, et c'est un peu ce qui se passe dans Le Canard à l'Orange, où c'est la question qu'on se pose, est-ce qu'après avoir trompé ou après avoir eu un amant, l'épouse peut redevenir encore plus amoureuse de son mari ?
L'épouse, c'est drôle que vous le mettiez systématiquement du côté de la femme.
Non, j'ai commencé par le mari, et après j'ai dit...
Il a alterné, là, le piste là-dessus, mais il a alterné, il est propre là-dessus.
Que je finisse avec l'un des deux.
Écoutez, à la minute où vous redevenez objet de désir pour un autre ou une autre, vous redevenez objet de désir tout court. Ouais. Donc, cette personne dont une autre qui d'un seul coup suscite l'intérêt de quelqu'un d'autre, je peux vous dire que c'est vrai que ça ramène quelque chose dans
la flamme.
Et puis la conjugalité, c'est pas qu'il n'y ait pas de crise, il y a toujours des crises. On peut pas les éviter. La conjugalité, c'est continuer de se choisir malgré les crises ou avec les crises.
Ah, donc être encore plus fort avec les crises, c'est
ça ? Ouais, c'est ça, c'est de pouvoir surmonter. Mais encore une fois, c'est aussi de comprendre que ça a pas forcément, c'est pas parce que vous avez mal fait ceci ou mal fait cela que l'autre est allé voir ailleurs. C'est ça.
Merci. Pardon, vous voulez rajouter, je vous en prie. Finissez votre phrase.
Et ça, c'est le gros défaut des conflits d'adultère.
Merci Caroline Veil. On vous retrouve donc sur France 2 avec Daphné Burkin. Pensez à l'embrasser pour nous, s'il vous plaît. Tanguy Passureau, vous allez nous parler du retour. Bonjour, vous allez nous parler du retour des djihadistes français.
Ouais, parce que j'avais envie d'un sujet sympa pour bien finir la semaine. Hein, les djihadistes sont en Syrie, gardés par les Kurdes qui vont pas pouvoir nous les conserver puisqu'ils s'apprêtent à se faire trucider par Erdogan, le président turc. Ah, bah, ça change des sujets sur le maquillage vaginal. Il est capable de profondeur, Passureau.
On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez avec Leïla Kadhoumi, Daniel Morin, Albert Algou, Alexis Le Rossignol, Frédéric Sigrist, Tanguy Passureau et nos invités Anne Charrier et François Vincent Tévy.
Bonjour.
C'est trop mignon.
Au théâtre de la Michaudière, une pièce où vraiment, vraiment, on rit. Ouais. Merci parce que moi j'ai passé une soirée formidable. Pour une fois, on n'était pas ensemble avec Leïla.
Non, c'est vrai. Moi, je suis allée. Alors, c'est marrant. Je suis allée voir la pièce dimanche en matinée, donc 15h30. Et là, c'est.
Je m'attendais à ce que tu ailles au Festival d'Anjou.
Non, j'ai pas eu l'occasion.
Tu as dit dimanche en matinée à 15h30.
Oui. Oui, dimanche en matinée, c'est-à-dire à 15h30 au théâtre. Ouais. Ouais, voilà.
Ah, d'accord.
Pour donner
matinée du samedi.
C'est pas grave.
15h30 du matin.
Voilà, c'est ça.
La première fois.
Et c'était hyper drôle aussi dans la salle, parce que je crois que le public change selon si c'est le soir à 20h30 ou si
c'est
le dimanche. Et je me suis fait plein de copines.
Ça peut même être.
Il y a beaucoup de commentaires.
Il y a beaucoup de commentaires des dames qui.
Et ça peut être plus familial parce que les enfants peuvent venir en matinée. Et c'est une pièce où on peut emmener des enfants parce qu'il y a rien de choquant, c'est drôle.
Vie, hein.
Mais c'est non. Oui, je suis pas sûre. Mais moi, mes enfants ont trouvé ça très drôle. Mais bon, mes enfants sont très objectifs. non, mais ce qui est drôle dans la matinée du dimanche, c'est que c'est la même moyenne d'âge, mais sauf avec des tout petits et avec des très âgés.
Ouais, c'est vrai, c'est très varié.
Cette pièce donc que l'on vous recommande vivement si vous voulez rire, et puis vous l'avez vu avec Caroline Veil tout à l'heure, ça donne aussi à réfléchir sur le couple, la fidélité.
Il n'y a plus à réfléchir, je crois que c'est très clair.
pour elle, oui.
Faut y aller.
Pour elle. Anne Charrier, François Vincentelli, Alice Dufour, Sophie Arthur et le frétillant Nicolas Briançon qui met également en scène, c'est au théâtre de la Michaudière et allez-y, vous ne le regretterez pas. Voici Tanguy Passureau. Les djihadistes français en Syrie sont de retour.
Oui, il était temps. Certains, ça fait 10 piges qu'ils sont partis. Mais le djihad, c'est pas comme moniteur de ski. Quand on fait les saisons, ça dure. En plus, à la fin de la journée, il y a ni raclette entre potes, ni génépi. On se retrouve à bouffer un bolino au milieu des cailloux. Ça, Daesh le disait pas dans la brochure. Hein, et Julien Courbet va pas les engueuler. Il a encore appelé 10 artisans qui se sont barrés avant de finir de construire les piscines des particuliers dans le sud. Alors, les djihadistes, on les déteste parce qu'ils ont choisi de tuer des Français. Tous, on a des objectifs. Perdre du poids, arrêter de fumer. Mais eux sont infoutus de faire un travail sur eux-mêmes. Par manque de volonté, sans doute. Et ils ont pris les armes contre nous. Mais sur place, ils se sont fait éclater. Et aujourd'hui, ils sont 130 hommes, femmes, enfants à végéter dans des camps en Syrie, surveillés par les Kurdes, qui les ont capturés. Pendant que nous, comme des brêles, on jouait à Pokémon Go, on était contents d'attraper Roukoul ou Karabaf, qui vaut quand même 100 bonbons. Et ben, eux faisaient le taf. Seulement, petit point géopolitique, auditeur, je sais que tu es déçu. Vendredi dernier, je parlais du maquillage vaginal de Kim Kardashian. C'était plus sympa, mais il n'y a pas un sujet comme ça par semaine. Paris Hilton, malheureusement, ne se met pas de mascara autour de l'anus. Point géopolitique, Trump, celui qui rit quand il tweet, vient d'annoncer que les États-Unis allaient quitter la Syrie. Ce qui fait que les Kurdes syriens sont à la merci de l'armée turque d'Erdogan, l'autocrate cintré qui fait avec les gens ce que nous on fait avec le lavabo des WC quand on fout dans du silitbang. Donc ceux qui gardent notre djihadistes au frais à côté des croustibates vont mourir. Or, quand on est mort, on est moins efficace professionnellement. Les recruteurs, d'ailleurs, ne prennent que des gens vivants. Hein, sauf à Lyon ou à la mairie, ils ont pris Gérard Collomb qui, vu son dynamisme, est entre les deux. Nos djihadistes vont donc se tailler dans la nature et c'est dangereux parce que sur les 130, bon, ok, il y a 70 gosses, 40 femmes que par définition, on va décrire comme plus inoffensives alors que pas du tout. Mais bon, il en reste 20 qui potentiellement sont des psychopathes entraînés à tuer. Jason jeune dans Vendredi 13 à côté, c'est Marlène Schiappa qui fait de la Zumba sur C8. Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur en fin de stage, l'a donc annoncé mardi à Jean-Jacques Bourdin sur BFM Premier sur la neige. Les djihadistes vont revenir. Benjamin Griveaux, il y a un an, disait qu'il serait jugé par les Kurdes, mais Griveaux raconte n'importe quoi. Hein, moi, s'il me dit qu'à la cantine, il y a des frites, j'y vais pas parce que je sais qu'il y a des salsifis. Et c'est vrai que ça fait mal au huc. Voir revenir ces pourris, c'est moins agréable que de s'empaler nu sur un sucre d'orge quand on est diabétique. Résultat, la classe politique est vent debout. Éric Ciotti a écrit sur Twitter qu'ils soient jugés en Syrie pour leurs crimes, donc traduction, qu'ils soient exécutés. Hein, parce que le tribunal syrien, c'est un mec en cagoule qui dit coupable. On répond, ouais, non, mais en fait, j'ai eu une enfance difficile, mes parents regardaient Thalassa. L'autre dit coupable et il vous tranche la tête.
Quelles ont été les autres réactions politiques?
Eh ben, Laurent Wauquiez a dit qu'il fallait interdire le retour de ceux qui sont partis faire le djihad. Mais le problème, c'est que le djihadiste, globalement, ne respecte rien. Là, je pense qu'une fois rentrés, ils vont rouler à 90 sur les routes limitées à 80 par Édouard Philippe. Donc, vous dites à un djihadiste qui se balade en Syrie, parce qu'une fois relâché par les Kurdes morts, ils vont se promener. Hein, à moins qu'Erdogan soit dans un de ses mauvais jours, au lever, il aura marché pieds nus sur un Lego de son neveu qui traînait et qui tue les Kurdes plus nos djihadistes. Le djihadiste français, il va marcher dans le désert parce que c'est Mycorn en moins chochotte. Hein. Les mecs vivent entre trois roches depuis 10 ans comme des serpents à sonnette mais sans la queue qui vibre. Il va franchir les frontières qui n'existent plus. 4 mois plus tard, il est au balto de Mâcon et il va se faire péter si le premier blackjack qui gratte n'est pas gagnant. Donc à la limite, si on organise leur retour, qu'on les chope à la sortie de l'avion en les faisant voyager en low cost pour qu'ils soient obligés de raquer 15 euros s'ils veulent des cacahuètes et qu'on les met en tôle, ben on est peut-être gagnant. À moins d'aller en Syrie de suite et les buter un par un, mais enfin c'est compliqué parce qu'on deviendra aussi dégénéré et fanatique qu'eux-mêmes. Si on applique, nous, la politique de Daesh, pourquoi pas, mais il faudra pas venir pleurer si Cochonou à terme perd le sponsoring du Tour de France. Et puis Castaner a eu cette phrase mardi, ils sont français avant d'être djihadistes. Et tout le monde dit non, pas du tout, ils ont perdu leur nationalité en combattant contre nous. Hein, il faut dire que certains ont brûlé face caméra leur carte d'identité. Ah, le djihadiste ne se dit pas comme nous, je vais galérer ensuite pour la refaire. À la mairie, ils vont me dire 4 fois de suite, ma photo elle est pas conforme. Non, on leur a dit que le califat ça allait se faire, eux ils y ont cru parce qu'ils sont un peu cons. Hein, c'est mec là, on peut leur revendre le Minitel cassé de Tati Josette à son décès en leur disant « Vous allez voir, c'est la technologie de l'avenir !» Et il a raison, Castaner. Bah, c'est quelqu'un d'autre qui a dû lui souffler ça, parce que c'est pas possible que ça vienne de lui. Hein, la réalité, si on sort du monde arc-en-ciel où même les abris de jardin sont en pain d'épices, c'est que ce sont des Français qui se sont retournés contre d'autres Français. C'est-à-dire que chez nous, il y a des gens super, Amel Bent, Kinvey, Scheim, qui sont de bonne foi quand ils disent qu'ils font des chansons pour divertir les gens. Mais il y a aussi des ordures. C'est ce qu'on est. Dire que les ordures n'existent pas, c'est trop facile. Et ils ont été bien sympas, les Kurdes, de se farcir nos illuminés sur 18 mois. Maintenant, ils vont nous refiler le bébé. Et en général, à part la mère qui les trouve super, les bébés, c'est pas beau.
Merci. Tony Bassuri. La bande originale, Nagui, sur France Inter. Anne Charrier, François-Vincent Telly, vous êtes donc au théâtre de la Michaudière. Ça vient de commencer, ça a à peine une semaine.
Ça a une semaine.
Et ce canard à l'orange est toujours aussi... D'abord, il est toujours aussi vivant parce qu'il met du temps à cuire. Et c'est de là que viennent aussi les situations et les gènes. Et au sein du couple et au sein surtout des satellites de ce couple, c'est-à-dire l'amant, la secrétaire, future maîtresse ou pas, d'ailleurs du mari trompé, la gouvernante qui vous prend, vous, Anne Charrier, qui prend la femme pour une biche vierge,
oui,
blanche,
oui,
naïve.
Et ça la fatigue en plus. Je crois qu'elle est fatiguée de cette image-là. Ouais. D'être la femme parfaite. Ouais.
Mais non, mais d'ailleurs, elle lui dit allez séduire le beau jeune homme et rendez votre mari jaloux. Quoi ?
Elle vous en croit incapable.
Non, c'est ça. Ouais. Non, je joue très très mal, Madame Gray. magnifiquement interprétée par Sophie Arthur.
Voilà. Et puis la question que l'on se pose tout le long de la pièce, d'ailleurs, c'est qui va gagner cette partie d'échecs, François-Vincent Telly.
Ah bah, il faut venir voir la pièce.
De l'amant et du mari.
Il faut venir voir la pièce et vous allez voir une surprise.
Donc qu'est-ce qui est prévu dans les mois qui viennent?
Non,
vous
mais
jouez
ça on ne sait pas
à la
encore.
On, jusqu'en
nous,
juin.
On espère partir en tournée en janvier 2020. Maintenant, on a commencé il y a 8 jours. Enfin, on en a joué 8. C'est difficile de vous dire
allez donc
si elle va être énorme
beaucoup,
ou pas.
Cette pièce cette à Paris, et comme ça, il y aurait une très belle tournée.
Absolument.
Exactement. Anne Charrier, François Vincentelli, Alice Dufour, Sophie.
Et
Arthur.
Si vous venez à Paris, c'est la pièce qu'il faut voir. Ben quoi, ouais. faut le dire.
C'est que tu m'as interrompu avant que je parle du pétillant Nicolas Briançon. Wow, il peut mal le prendre.
Oh là là, merde.
Metteur en scène et acteur qui porte cette équipe qui vous a réuni quand même. Appelons un chat, puisque c'est lui aussi qui s'occupait du Festival oh oui. d'Anjou et qui met en scène cette pièce au Théâtre de la Michaudière. Le plaisir d'ailleurs de jouer cette pièce et de aussi tenter des choses différentes chaque soir, puisque là ça fait qu'une semaine, mais est-ce que vous cherchez de nouveaux, je sais pas, gestes, comportements, manières de jouer ou pas?
On découvre aussi les réactions de plus en plus du public, parce que c'est vraiment un partenaire à part entière, ouais. C'est-à-dire que comme c'est une comédie, il y a les rires, donc il faut les serrer, il faut voir les réactions, c'est très interactif, enfin, dans le sens où c'est du spectacle vivant, et donc on commence à comprendre qu'il y a des choses plus ou moins drôles, des choses qu'on pensait être drôles qui ne le sont moins, et puis des choses qu'on n'avait pas du tout...
Mesurer la réaction du public.
Hier soir, par exemple, je sais que j'ai fait une onomatopée qui ouais. a fait exploser de rire le public. Je vais essayer.
Je confirme.
Mais c'est effectivement un théâtre qui demande où les rendez-vous sont vraiment. Voilà, il faut pas les rater parce qu'après on met plusieurs répliques à remonter.
On a beaucoup parlé de encore une fois du brillant Nicolas Briançon qui porte bien son nom, de vous
et Lumière, Briançon et Lumière.
Anne Charrier, François Vincentelli, Sophie Arthur aussi qui tient bien la maison autant que le théâtre d'ailleurs, parce que c'est elle qui vient nous parler juste avant que la pièce ne débute à propos des portables. J'aimerais qu'on parle d'Alice Dufour qui est une excellente comédienne qui est d'une beauté incroyable.
Ouais, je ne suis pas trouvée.
C'est elle qui tue le canard. Ah,
si, à chaque fois qu'elle apparaît sur scène, mais ça marche aussi pour vous. Ça marche aussi pour vous, Anne Charrier. À chaque fois que vous arrivez sur scène, le public fait oh, c'est super mignon.
Ça, c'est le public du dimanche. Oui, parce qu'il y a un commentaire sur nos tenues. On a la chance d'être. On a des toilettes magnifiques parce que Michel Dussart est un grand, grand costumier. Et donc, on commente nos toilettes.
Mais pour en revenir à Alice Dufour,
alors, en termes de toilettes, elle en a de moins en moins. Plus la pièce avance, moins il y a de tissu, mais elle est...
C'est dégueulasse à la fin.
C'est-à-dire, c'est une diablesse, mais en même temps un ange, et c'est là aussi où elle bascule dans son jeu et dans les deux rôles, dans les deux situations. Celle de la secrétaire au début, stricte comme ça, avec son chignon, ses lunettes, et on se dit ok, c'est une killeuse, voilà. Et puis d'un coup elle devient
Céline. Et à un moment donné, où son patron, puisqu'elle est secrétaire de ce journaliste, lui demande de ne plus être cette journaliste formidable qu'elle est au bureau, mais qu'elle redevienne patipate, et donc elle enlève son chignon, elle enlève sa veste, et elle devient une sorte de vampe sublime et voluptueuse.
Elle joue extrêmement bien, ça vient à nouveau clouer le bec de certains invités que nous avions eus ici en disant qu'une comédienne ne pouvait pas être belle, drôle et bonne comédienne.
Il y a des invités qui ont dit ça.
On en a deux incarnations avec Anne Charrier et Alice Dufour.
Oh, voilà, exactement.
Non, et puis elle a beaucoup de mérite, Alice, parce que le rôle pourrait paraître falot, il faut lui donner vraiment un corps et j'entends un corps symbolique.
Du contenu,
de la densité, et elle le fait avec une légèreté et une précision comme ça dans
jusqu'à la dernière seconde. C'est à la dernière seconde que l'on comprend exactement qui était qui et qui jouait quoi dans cette pièce.
Tout le monde repart avec un cadeau.
Exactement.
C'est le cadeau des fans.
Le canard à l'orange. Ouais. Bah déjà le cadeau tout à l'heure, c'est Caroline Veil qui a expliqué à tout le monde qu'on pouvait tromper et être infidèle. Allez hop, c'est la fête ce week-end. Frédéric Sigrist, le voici avec le dépôt de bilan de la semaine.
Merci, l'heure est grave. Il est 1:02 avant la fin du monde, Nagui.
Déjà?
Je ne parle pas de Philippe Bertrand, parce que j'adore Carnet de campagne. Non, il est 1:02 sur l'horloge de l'apocalypse, Doomsday Clock in English. Et le principe est simple, si minuit c'est l'apocalypse, eh bien on s'en rapproche plus façon Usain Bolt que Philippe Croizon. Et pour calculer cette heure critique, on retrouve pêle-mêle la menace nucléaire, le réchauffement climatique, les fake news qui vont créer des guerres et l'hygiène de Daniel Morin. En gros, l'équation, c'est Trump puissance nucléaire multiplié par Kim Jong-un au carré, racine de Bolsonaro, divisé par des émissions de gaz à effet de serre, égale on n'est pas dans la merde. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des scientifiques américains. Alors, le problème, c'est qu'en France, quand tu mets « américain » après quoi que ce soit, ça décrédibilise tout ce qui précède. Parce qu'ici, à part en France, à part Michel Sardou, on cultive un certain mépris de la culture états-unienne. Il y a des Starbucks partout en France, des McDo, on regarde tous Netflix sur nos écrans Apple, mais, culturellement parlant, on est toujours convaincu de vivre dans le village d'Astérix face à l'envahisseur romain. Hein, tu mets « américaine » après « gastronomie », et bah, tout le monde se dit, pour un Français, ça sonne un peu comme « féminisme saoudien » ou « bienveillance russe ». Hein, ça, on est sur une belle base d'ironie. Diplomatie américaine, c'est pareil. On s'imagine pas dans la bienveillance, le respect, l'écoute. On est tout de suite sur coup d'État, impérialisme, conflit armé, puits de pétrole, tout ça. Et c'est injuste, parce que quand on y réfléchit, l'arrogance française, elle vient d'un passé où la France était une monarchie qui a construit sa richesse sur l'exploitation des bouses... Je veux dire des classes les plus pauvres ou des bonus... Je veux dire des pays colonisés. À Versailles, Notre-Dame, l'Élysée, ça n'a pas été construit par des ouvriers volontaires et syndiqués qui touchaient le SMIC sur la base des 35 heures. Non. Même la manière dont on parle de l'exception culturelle française. C'est pas parce qu'à un moment, Godard et les autres ont inventé la nouvelle vague qu'il faut oublier qu'aujourd'hui, ce que les gens vont voir au cinéma, c'est qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Il y a la France de Victor Hugo et de Sartre, certes, mais il y a aussi la France de Camping Paradis et de la bande originale. Non mais c'est vrai, les seuls trucs que les générations futures analyseront dans cette émission, c'est les questions de Nagui ou le degré de résistance à l'alcool de Leïla. Pour le reste, voilà. Non mais c'est vrai, c'est le seul truc. Donc, scientifique américain, ça ne fait pas sérieux. Alors que derrière cette horloge annonçant la fin du monde, il y a pourtant 15 prix Nobel. Des hommes et des femmes sérieux. Et on n'est pas sur du Hanouna qui se prend pour Michel Pollack ou Marlène Schiappa qui se prend pour Simone Veil. On est sur du crédible. Et pourtant, je trouve qu'on est relativement zen par rapport à cette annonce. Tu vois, la communauté scientifique nous annonce très sérieusement qu'on est à 2 minutes de la fin du monde et nous on est tous là, ok, je vais reprendre des nouilles. Le problème c'est qu'on se rend pas compte de l'échelle du temps. Parce que c'est quoi 2 minutes en langage scientifique? Parce que là on est à minuit moins 2, mais il y a forcément un moment dans l'histoire, on était à midi 15 ou à 4h12 et personne nous l'a dit. Hein, les scientifiques et la fin du monde, c'est un petit peu comme Chronopost et les colis, ça peut arriver entre 8h et 22h, c'est trop vague. Et j'imagine que c'était pareil à Pompéi, quand un mec a visité un appart à Pompéi, ça s'est forcément passé comme ça. Alors vous voyez, ça c'est une villa tout équipée, avec esclaves intégrés, proche commerce, l'atrium donne plein sud, c'est une case en or. Hein. Dépêchez-vous parce que j'ai beaucoup de demandes. Et là, t'as forcément quelqu'un qui a dit « Oui, c'est joli, mais on est quand même au pied d'un volcan. C'est pas dangereux. Oh, vous savez, les volcans qui se réveillent comme ça pour rien, moi j'en ai jamais vu. Hein.
Le principe de précaution.
Moi je pense que les éruptions, c'est un truc inventé par la communauté scientifique pour se garder les meilleurs coins. Hein. Et puis si on va par là, vous avez beaucoup plus de chances de vous faire renverser par un char en sortant de chez vous que de vous prendre une coulée de lave. Allez, il faut signer là et là. Ça s'est forcément passé comme ça. Pour moi, le monde actuel vit au pied du Vésuve. S'il y a une vie après la mort, après l'apocalypse, on va forcément nous demander, mais attendez, réchauffement climatique, perturbateur endocrinien, vous avez foutu quoi en 2019? On est revenu à 90 sur les nationales parce qu'à 80 quand même on se traîne. Alors évidemment, il y a une prise de conscience, qu'on va droit dans le mur, mais c'est juste qu'on veut pas voir l'ampleur des efforts à faire. On est là avec nos gourdes en métal, nos composts, mais c'est clairement pas suffisant. Je suis sûr qu'à Pompéi aussi, il y a des mecs qui avaient construit une rigole autour de leur baraque en se disant « Oh ça va, j'ai fait ma part ». Mais clairement, ça a pas suffi. Et finalement, le problème, quand les scientifiques te disent qu'il est minuit moins 2 avant la fin du monde, c'est qu'à cette heure-ci, malheureusement, il y a déjà trop de gens qui dorment.
Merci, bravo, François. Avec Nagui. La pièce s'appelle Le Canard à l'Orange, pièce de William Douglas Home, avec une adaptation de Marc-Gilbert Sauvageon, une mise en scène par le bondissant, le charmant, l'amusant Nicolas Briançon, avec une fin aussi dans cette représentation qui est un clin d'œil à tout le vaudeville, à la tradition du théâtre.
Ce soir. Exactement. Et d'ailleurs, il y a les trois coups pour commencer.
Ouais.
Et ça faisait très très longtemps que j'avais pas entendu ça au théâtre. Ça fait vraiment vraiment beaucoup de bien.
Ouais, Nicolas, il avait très envie de ça. De trois coups.
Le canard à l'orange, c'est au théâtre de la Michaudière.
Tu remarqueras, Anne, qu'en fait, c'est le monde est rempli de choses trap avec eux. Et donc, dès que tu dis un truc, voilà.
Moi, j'adore comment tu nous mets ça sur le dos.
T'as vu?
Alors que t'as tout le temps l'œil qui pétille, mais comme Nicolas Briançon.
Parce que
je suis à l'écoute, parce que Périclès, prince de Tyre, est une très très belle pièce de Shakespeare.
Et d'ailleurs, Nicolas Briançon, je dis pétillant parce qu'il a l'œil qui pétille. Hier, j'ai senti, et d'ailleurs, dites-moi, est-ce que ça arrive souvent? ouais. qu'il y a des débuts de fou rire qui peuvent commencer entre
non,
vous.
Non, mais moi, le problème, c'est que je suis pas très rieur, mais si je pars, c'est fini. On peut baisser le rideau. Donc, hier, j'étais limite. Limite, parce qu'il m'a fait quelque chose. Voilà, il m'a fait un truc.
Oui, oui, oui.
Ça s'est très bien vu, d'ailleurs.
Il cherche.
Qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fait un sourire sur une réplique. Voilà. Carrément. C'est-à-dire que c'était une mise en abîme. Non seulement il y a eu le sourire, il y a eu le regard. Il m'a demandé de répéter une réplique
qui fait rire. Et il m'a demandé de la répéter. J'ai pas pu. J'étais.
c'est vachement bien. C'est une très bonne soirée en perspective. Le Canard à l'Orange. Parlons de l'avenir, Anne Charrier. Le 17 avril, vous serez à l'affiche de Just Gigolo.
Oui, tout à fait.
Racontez-nous ce que vous y faites. Le film de Olivier Barou avec Cad.
Absolument. Je joue la sœur de Cad qui reçoit son frère qui vit dans une prison dorée depuis qu'il a choisi, depuis quelques années. Et donc, il va se confronter à la vraie vie des vrais gens. Pendant quelques jours.
Vous serez également dans Persona non grata de Roche Dizem.
Oui, absolument.
Et dans Le temps des marguerites de Pierre Corré, aux côtés de Clovis Cornillac. Ça va, le cinéma.
Tout à fait.
Finalement, vous a pas beaucoup appelé en 99 et maintenant trois films.
Il me réclame.
Philharmonia, c'est un succès sur France 2 dont vous faites partie de ce succès. François Vincentelli, encore 3,5 millions avant-hier, une série en 6 épisodes. Donc il y a encore la semaine prochaine, c'est ça?
Oui, les deux derniers. Voilà. La résolution. Ne manquez pas ça, c'est extraordinaire.
Et le Système D, c'est une autre série que vous avez également tournée pour France 2.
Oui, où je joue un ami imaginaire, une sorte de Jiminy Cricket. Seule l'héroïne principale me voit. Et je me suis beaucoup amusé à faire ça et on verra ce que ça donne, mais on vient de terminer, donc c'est en montage.
Et je voulais évoquer une association dont vous êtes la marraine avant que nous quittions, qui s'appelle Amadea.
Amadea, voilà. Ah bah, je suis ravie que vous l'évoquiez, qui est une
association d'urgence pour les enfants
charentaise
à Madagascar.
Oui, absolument. Et qui est une très belle association parce que c'est des gens, c'est une petite structure, c'est des gens qui sont sur le terrain et qui ont déjà travaillé pendant 30 ans, donc on voit les résultats déjà, et c'est vraiment une très belle association. Je vous invite tous à aller sur le site d'Amadea.
Lequel?
Amadea.
Point.
AM1.fr, je ne sais
point,
pas,
c'est
pardon,
point,
je
c'est
sais
point
pas.
Org. On va vite vérifier, mais c'est AMADEA.org.
J'imagine.
On va vite vérifier. Des excuses à présenter, Daniel
Morin. Oh, bien sûr, et désolé déjà pour tous nos auditeurs précaires, nos auditeurs qui souffrent en silence, nos auditeurs qui peinent à nourrir leurs enfants et qui ont été complètement choqué et traumatisé par notre discussion interminable sur les centaines de paires de chaussures de luxe d'Anne Charrier et des milliers de chaussures de clown de Nagui, c'est vrai, même moi, j'ai honte du haut de mes tongs. Et désolé pour Anne Charrier, j'ai eu Caroline Proust, une des héroïnes d'Engrenage, au téléphone, à la pause, alors elle est ravie que vous soyez fan, en revanche, elle ne veut pas de vous dans la série. Oui, elle a racheté une soixantaine de vos paires de pompes qui lui ont filé 9 ampoules et 15 verrues. Désolé enfin pour tous nos auditeurs vertueux, fidèles et ou heureux en couple. Pendant 1h30, ils ont été choqués par une émission toute à la gloire de l'adultère, de la partouze, des relations non hygiéniques, du mélange des corps et des positions contre nature, où la peau devient moite, où le bassin craque. 90 minutes d'apologie du cul. C'était dégueulasse, mais c'était une super émission.
Calme-toi. Anne Charrier, François Vincentelli, Alice Dufour, Sophie, Arthur, avec le brillant, l'étincelant, l'éclatant, le coruscant, le sémillant, le frétillant, le percutant, le bondissant, l'amusant, le séduisant, Nicolas absent. Briançon et absent. tout ça au théâtre de la Michaudière, le Canard à l'Orange. Merci et bonne
Merci
route
à
avec
vous.
Cette
Merci
pièce. Beaucoup. Lundi, c'est Michel Bernier qui sera notre invité. Et dimanche, dans Vous les femmes,
oui,
tu reçois Émilie
Loiseau
à 17h.
Et Marie-Sophie Ferdan pour Philharmonia, cette excellente série sur France 2.
Merci, passez un bon week-end, une bonne journée tout de suite avec le Canard Campagne de Philippe Bertrand.